Bonjour à tous et merci d'écouter RFI. 11h30 en temps universel, il est midi et demi ici à Paris.
Anne Contner.
RFI midi, 2 heures ensemble, avec nos correspondants, avec nos envoyés spéciaux pour faire le tour de l'actualité dans le monde. Et à la une aujourd'hui, 14 février, l'avenir de l'Ukraine et le spectre d'une capitulation, comme le redoute Emmanuel Macron. Les alliés de Kiev sont à Munich, en Allemagne, dans un contexte très incertain. Non seulement l'armée ukrainienne est toujours en grande difficulté sur le terrain, mais en plus, Donald Trump discute désormais directement avec la Russie, laisse entendre qu'il pourrait accepter et faire accepter les conditions imposées par Moscou. On fait le point dans quelques minutes et nous verrons dans 3 quarts d'heure avec notre invité quel lien nouveau se dessine entre Washington et Moscou. L'actualité africaine, comme chaque jour, à midi et demi, temps universel, nous parlerons de nouveaux combats dans l'est de la République démocratique du Congo entre rebelles du M23 appuyés par des militaires rwandais et l'armée congolaise. Et puis le verdict attendu aujourd'hui dans le procès de l'attentat de Grand Bassam qui avait fait 19 morts et 33 blessés en 2016 dans cette station balnéaire de Côte d'Ivoire. Et puis à partir de 13h, temps universel, l'actualité du continent américain. Nous irons notamment en Haïti où l'insécurité pèse très lourd sur le quotidien des habitants. Il est de plus en plus difficile de trouver de l'argent liquide en province. Voilà, vous avez le programme. Bienvenue.
RFI Midi. L'Europe à midi.
La rencontre est très attendue. Volodymyr Zelensky doit voir tout à l'heure le vice-président américain qui a tenté de rééquilibrer un peu les récents propos de Donald Trump dont on a beaucoup parlé cette semaine. Avant une conférence aujourd'hui donc sur l'avenir de l'Ukraine qui se tient en Allemagne, à Munich. Carlotta Morteo, J.D. Vance tempère un petit peu les promesses faites à la Russie.
Un petit peu, oui. Dans une interview Wall Street Journal, J.D. Vance met en avant les moyens de pression des États-Unis sur la Russie, imposer des sanctions économiques, voire recourir à une éventuelle action militaire si le président russe Vladimir Poutine n'acceptait pas un accord de paix qui garantisse l'indépendance à long terme de l'Ukraine. Je pense qu'un accord qui choquera beaucoup de monde sera trouvé, déclare le vice-président américain. Tout est sur la table. Rien de bien surprenant. Le secrétaire américain la défense, Pete Hegseth, a déjà dit hier lors d'une réunion au siège de l'OTAN que l'Ukraine devait renoncer à l'adhésion à l'OTAN ainsi qu'à la Crimée et au Donbass, territoire occupé par la Russie.
Voilà, et il ajoute d'ailleurs à l'instant qu'il n'est pas nécessaire de faire confiance à Vladimir Poutine pour négocier avec la Russie. Voilà la position des États-Unis à Munich, de quoi consterner les Européens. Le ministre allemand de la Défense ainsi que la représentante des Affaires étrangères de l'Union européenne se sont offusqués du fait qu'avant même un début de négociation, les États-Unis cèdent à la Russie sur l'essentiel de ce qu'elle demande.
Voilà, la chef de la diplomatie européenne a même comparé la crise actuelle à celle de 1934, quand la France et le Royaume-Uni ont accepté l'annexion d'une partie de la Tchécoslovaquie par l'Allemagne nazie, pensant que cela satisferait Adolf Hitler, alors qu'en réalité, ces fameux accords de Munich ont été les prémices de la Seconde Guerre mondiale. Pour tenter de garder les États-Unis investis à sa cause, l'Ukraine a remis ce matin aux Américains un projet de partenariat sur les ressources minières stratégiques, l'accès aux terres rares étant la condition sine qua non posée par Donald Trump pour continuer de soutenir Kiev. On vient aussi d'apprendre que la Russie ne sera pas représentée à la conférence de Munich. L'Ukraine avait de toute façon refusé le principe d'une réunion tripartite avec Washington et Moscou. La question aujourd'hui, c'est donc de savoir si les Européens sonnés maintiendront l'unité et seront pris au sérieux par une administration américaine qui exige que ce soit le vieux continent qui prenne la responsabilité de sécuriser l'Ukraine à l'avenir.
Voilà, Volodymyr Zelensky qui doit rencontrer tout à l'heure J.D. Vance, le vice-président américain. Et à l'approche de ce rendez-vous, le président ukrainien assure que la situation s'est améliorée sur le front Est, où son armée est toujours en très grande difficulté. Et d'ailleurs, la Russie revendique ce matin la prise de 2 nouveaux villages dans la région de Donetsk.
RFI, l'Europe à midi.
Ce vendredi est une nouvelle journée de boycott dans plusieurs pays du sud-est de l'Europe. Se nourrir, faire ses courses coûte de plus en plus cher, trop cher. Alors les associations de consommateurs appellent à ne plus acheter dans les supermarchés. Le mot d'ordre est le même en Croatie, en Bosnie-Herzégovine, en Macédoine du Nord, en Roumanie, en Bulgarie et au Kosovo, où notre correspondant Louis Seyé a rencontré des clients de supermarché à Pristina.
200, 300. Pour l'alimentation, je dois dépenser 200, 300 euros par mois, ça dépend. C'est beaucoup, parce qu'il y a aussi les factures d'électricité, d'eau, pour le ramassage des ordures, l'école pour les enfants. Ce qu'on gagne suffit à peine. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ?
Des sacs plastiques remplis de produits alimentaires dans les mains, Hala sort d'un supermarché de la capitale. Faire ses courses devient de plus en plus difficile pour cet employé payé au salaire minimum. Derrière elle, le caddie de Fatmire est resté presque vide.
Nos salaires sont tellement bas et en même temps, les prix augmentent tous les jours. C'est catastrophique. L'électricité, l'eau et surtout l'alimentation, c'est la catastrophe. Mais les salaires, eux, ils n'augmentent jamais. Moi, je gagne 300 euros par mois. Mais quand je fais les courses, ça monte facilement à 50 euros.
Plus 70% pour le sucre, plus 40% pour le lait et jusqu'à plus 110% pour les tomates. Depuis 2020, les prix des aliments du quotidien se sont envolés au Kosovo. Dans ce petit état des Balkans parmi les plus pauvres d'Europe, l'alimentation représente 65% du budget des foyers modestes contre moins de 20% en France. Sur les rayons des grandes enseignes, certains produits sont souvent vendus plus cher que dans les grands pays du continent. La situation est incompréhensible pour Fitnete, une commerçante d'une cinquantaine d'années.
Le lait, le fromage et beaucoup d'autres produits sont devenus plus chers, les détergents, les boissons et tout le reste. À l'étranger, les gens ont des salaires bien plus élevés et pourtant les prix sont souvent beaucoup plus bas qu'ici. Nous, on est une famille de trois, mon fils et mon mari, on travaille ensemble et en un mois, on peut dépenser 500, 600, 700 euros, ça dépend.
Ce jour-là, on ne fait pas vraiment la queue aux caisses des supermarchés du centre de Pristina. Suivant l'exemple des associations de consommateurs croates, un collectif de citoyens a appelé au boycott des grandes enseignes. L'initiative a été lancée sur les réseaux sociaux et elle a rapidement atteint plus de 200 000 personnes dans un pays de seulement 1 600 000 habitants.
Ne kemi në studio Gjevat Kastrotin, që po ashtu është pjesë e grupit apo edhe si themelues i këtij grupi në Facebook. Mirëmëngjesë, mirëmëngjesë.
Mesazhe.
Gjevat Kastrati est l'un des jeunes organisateurs du mouvement.
D'après les statistiques du site comparatif Numbeo, les prix au Kosovo sont identiques à ceux pratiqués en Allemagne. Un litre de lait coûte entre 1 euro et 1,35 euro. C'est la même chose en Allemagne. Mais en Allemagne, le salaire moyen tourne autour de 2000 euros, alors qu'au Kosovo, il est à 500 euros. C'est une énorme différence. On a même repéré des produits qui sont vendus plus cher. Une bouteille d'huile d'olive, dont le prix monte ici jusqu'à 22 euros, alors qu'elle est à 14 euros en Suisse, par exemple.
Në grupin Kosova bojkoton, për shembull,
Avec leur slogan « Le Kosovo boycott », les organisateurs dénoncent les hausses de prix déguisées et les abus de la grande distribution. Alors que le mouvement de boycott parti de Croatie a atteint la Roumanie ou la Bulgarie ces derniers jours, au Kosovo, le collectif de citoyens veut amplifier la mobilisation.
On va organiser ces boycotts tous les week-ends et une ou deux fois par semaine jusqu'à ce qu'on obtienne une réaction des institutions et des autorités compétentes. Nous voulons obtenir des baisses de prix durables ainsi qu'un cadre législatif pour réguler les prix. On veut aussi plus de transparence sur l'évolution des prix. Pourquoi et quand ça augmente de façon à sensibiliser le citoyen.
Comme tous les pays des Balkans, le Kosovo fait face à une inflation continue après des pics à 14% par mois en 2022. Depuis 2018, les autorités ont également imposé des droits de douane de 100% aux produits serbes et la mesure, toujours en vigueur, a un fort impact sur les prix. Pour l'économiste Safet Gurdjaliou, le boycott des grandes enseignes a peu de chances d'entraîner une chute des ventes comme dans les autres pays de la région. Car contrairement à la Croatie ou à la Roumanie, le Kosovo ne produit lui-même que très peu de produits alimentaires.
Aujourd'hui, malheureusement, le Kosovo est un État dépendant des importations. Nous sommes une société importatrice. Rien qu'en 2024, nous avons importé plus de 6 milliards d'euros de marchandises. Il y a aussi une inflation silencieuse, notamment avec l'augmentation des coûts du transport. La taxe sur la valeur ajoutée, quant à elle, est toujours élevée. Et c'est un phénomène qui provoque des impacts sociaux. Au Kosovo, il manque aussi des inspecteurs pour contrôler l'évolution des prix. Leur augmentation aussi a un impact psychologique, puisque les prix montent rapidement. Mais ils ne reviennent jamais à des niveaux plus bas.
Alors que ce mouvement contre la vie chère prend de l'ampleur dans tous les pays de la région, le collectif kosovar a appelé à un nouveau boycott des supermarchés ce week-end. Louis Seyé, Pristina, RFI.
Un reportage à retrouver sur notre site rfi.fr. 12h40 ici à Paris. Un coup d'œil à la presse européenne. Tous les grands journaux du continent reviennent sur la conférence de Munich sur l'avenir de l'Ukraine. Et le plus grand quotidien allemand constate en gros titre « L'Occident se désintègre, les dictateurs triomphent ». Il s'agit d'un échec de la classe politique européenne en matière de sécurité, constate un analyste interrogé par un autre journal, le Süddeutsche Zeitung. Et Die Zeit affirme de son côté que cette stratégie de négociation ressemble à une capitulation inconditionnelle. Poutine, dit le journal, n'aurait pas pu mieux s'y prendre. The Guardian s'en inquiète aussi. Les États-Unis ont bradé l'Ukraine et montré au Royaume-Uni ce que signifie concrètement « America first ». En matière commerciale comme dans le domaine de la défense, la situation nous oblige à investir du temps et de l'argent que nous n'avons pas dans des plans d'urgence. Nous nous sentons vulnérables parce que, en vérité, nous le sommes, conclut l'éditorialiste. Et puis Le Soir revient sur l'attaque survenue hier à Munich, justement à la veille de cette conférence sur l'Ukraine. 30 personnes ont été blessées, une voiture a foncé sur la foule. À 10 jours des élections législatives anticipées, l'AFD n'en demandait pas tant, écrit le journal belge, assénant que depuis 2 mois, le parti répète ses slogans au relent néo-nazi, exploitant sans vergogne les attentats perpétrés par des auteurs n'ayant pas la nationalité allemande pour marteler l'équation immigration égale insécurité.
RFI, l'Europe à midi.
L'extrême droite a imposé le ton, le rythme de cette campagne et d'ailleurs est donnée en deuxième position par les sondages avec près de 21% des intentions de vote. Un choc après les années de pouvoir social-démocrate d'Olaf Scholz, chancelier affaibli par l'effondrement de sa coalition, critiqué au sein même de son propre parti. Il est notre Européen de la semaine. Votre choix, Romain Le Maresquier. Le chancelier allemand est dans une situation très particulière parce que malgré sa faible popularité, c'est bien lui qui est la tête de liste pour le parti SPD.
Oui, et ces élections pourraient bien marquer la fin de la carrière politique d'Olaf Scholz. À 66 ans, le chancelier sortant pourrait bien tirer sa révérence si sa formation, le SPD, subit une défaite historique, ce que prédisent justement les sondages. Il faut dire que la coalition feu tricolore qu'il dirigeait, avec le Parti social-démocrate, les Verts et le Parti libéral, était plus ou moins vouée à l'échec, surtout dans un contexte de crise énergétique et économique. Étienne Dubslaff, docteur en civilisation allemande et en histoire contemporaine.
C'était une coalition un peu contre nature, au sens où il y a bien certains points communs, notamment dans la politique sociétale, où ce sont 3 partis plutôt libéraux, somme toute. Par exemple, 3 partis favorables au mariage gay, 3 partis qui étaient aussi plus ou moins favorables, par exemple, à la libéralisation du cannabis. C'est anecdotique, mais néanmoins, ça joue quand même un rôle. Donc là-dessus, ces 3 partis pouvaient tout à fait s'entendre. En revanche, il y a toujours eu de graves dissensions, notamment entre les Verts et les libéraux, autour de la question économique et financière.
Et justement, ce sont des questions d'ordre économique et financière qui ont fait imploser la coalition.
Et oui, les sociaux-démocrates et les Verts souhaitaient faire sauter le verrou de la dette publique, un thème tabou en Allemagne. Mais mettre fin à ce verrou était indispensable, selon Olaf Scholz, pour relancer l'économie allemande, qui pourrait connaître une 3e année de récession en 2025.
Mais son ministre des Finances, qui est aussi le chef du Parti libéral, était totalement opposé à cette idée.
Et c'est ce point de crispation qui a fait éclater la coalition feu tricolore, une situation dont n'est pas vraiment responsable Olaf Scholz, détaille Marie Krapta, chercheuse au CERFA, le comité d'études des relations franco-allemandes à l'IFRI.
Avant lui, Angela Merkel a été au pouvoir pendant 16 ans et un certain nombre de décisions ont été prises qui finalement ont fragilisé l'Allemagne et cela ne date pas d'Olaf Scholz en tant que chancelier, puisqu'en effet, la dépendance par rapport à la Russie sur le plan énergétique, c'était bien avant Olaf Scholz. Sous Angela Merkel aussi, il y a eu un sous-investissement dans l'armée allemande et aujourd'hui, on se rend compte de l'impact négatif que cela peut avoir. Alors effectivement, les sociaux-démocrates ont aussi été au gouvernement sous Angela Merkel, mais il est un peu trop simple de dire que la faute finalement est celle d'Olaf Scholz.
Ce qui est sûr en tout cas, c'est que c'en est fini de la coalition feu tricolore et pourtant Olaf Scholz décide de prendre la tête de la liste du SPD pour les élections du 23 février.
Et oui, mais le problème c'est que les thèmes qui lui sont chers ne sont pas les thèmes qui dominent la campagne. L'Allemagne a besoin de relancer son économie, d'investir dans des secteurs clés selon lui, mais ce sont d'autres questions qui dominent les débats. Marie Krapatin.
Le thème de l'immigration est aujourd'hui un des thèmes phares. phare de cette campagne électorale, qui plus est après un certain nombre d'attaques au couteau, hein, mais également de différents attentats qu'il y a pu y avoir précédemment. Ce sujet de l'immigration et ce sujet de la sécurité aujourd'hui dominent cette campagne électorale, même si évidemment la question de l'économie, de la compétitivité joue un rôle, mais aussi l'ingérence étrangère avec Elon Musk qui soutient l'AFD effectivement aussi.
Alors, bien que donné vainqueur après le premier débat face à Friedrich Merz, le chef des chrétiens démocrates et donc tête de liste de la CDU, Olaf Scholz ne devrait pas être reconduit. L'ancien maire de Hambourg devrait donc quitter la scène politique prochainement, laissant derrière lui un parti social-démocrate qui pourrait bien mettre des années à se remettre d'un score qui s'annonce comme le plus mauvais de son histoire.
Romain Le Maresquier pour notre Européen de la semaine et la campagne qui se poursuit donc en Allemagne jusqu'aux législatives prévues le 23 février prochain.
RFI, l'Europe à midi.
Direction le Danemark à présent pour parler d'un territoire administré par les autorités danoises qu'on a beaucoup évoqué depuis que Donald Trump a dit son intention d'en prendre le contrôle, c'est le Groenland. Bonjour Klaus Krag.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à l'hebdomadaire Mandag Morgen. On votera au Groenland dans 2 mois pour renouveler le Parlement et le territoire cherche à se prémunir des influences étrangères, notamment en ce qui concerne le financement des partis.
Oui, c'est correct. Et en fait, c'est déjà dans un mois, le 11 mars, qu'il y aura des élections au Groenland, qui, comme vous le savez, c'est un grand et petit nation du Danemark, quoi. En fait, le Danemark, c'est une union de 3 nations, si on peut dire, et le Groenland, c'est une île très très grande, mais c'est en même temps pas beaucoup de champs en fait. Et c'est que 57 000 habitants. Et maintenant, on a peur que ces élections-là, qu'ils sont influencés par des forces, des acteurs. De l'extérieur du Danemark, quoi.
D'ailleurs, le fils de Donald Trump avait été envoyé au Groenland avec, à bord de son avion, 2 youtubeurs américains qui sont proches du mouvement Make America Great Again, donc du mouvement de Donald Trump, et qu'on a vu distribuer des casquettes rouges emblématiques des partisans du président américain et puis des billets de $100 dans les rues de la capitale. Il y a vraiment une inquiétude au sein de la population sur une influence américaine pour diriger un peu, influencer cette élection?
Oui, bien sûr. Comme j'ai déjà expliqué que c'est il n'y a pas beaucoup de champs là-bas et ça veut dire que les élections ils sont très disputées en fait parce que toute la question de l'autonomie du Groenland, c'est quelque chose qui a été discuté pendant des années. Et en fait, le Groenland, en ce moment, il s'en déchire beaucoup d'autonomie. Mais la question maintenant, c'est que comme Donald Trump, il a exprimé le souhait d'acquérir le Groenland, forcément, c'est important avec ces élections-là parce que qui sont les partis qui vont gagner? Comment est-ce qu'ils vont, se placer dans cette question-là. Mais en fait, je pense que le Danemark et le Groenland est un peu sous le choc de ce souhait de l'administration Trump. Et on ne peut pas dire comment ils vont se jouer les élections, mais on peut aussi s'imaginer que le Groenland va choisir de rester dans une union avec le Danemark et que le Groenland aussi va s'approcher beaucoup plus à l'Union européenne qui maintenant est aussi en train de développer des propositions pour les Groenlandais.
Merci Klaus Krag d'avoir été en ligne avec nous. journaliste à l'hebdomadaire danois Mandag Morgan. Il y a des inquiétudes et puis il y a des initiatives un peu plus légères au sujet de cette ambition américaine de prendre le contrôle du Groenland. Il y a une pétition qui a été mise en ligne qui s'appelle Make California Great Again. L'idée, c'est vous voulez prendre le Groenland, et bien nous, on va prendre la Californie. Cette pétition, elle a déjà recueilli près de 252 000 signatures avec un certain nombre de propositions, notamment des explications sur pourquoi la Californie. C'est très clair. La tech, la météo et les toasts à l'avocat. Voilà ce qui est écrit sur cette pétition. Notre monde de tech. Bonjour Dominique Dezonnet.
Bonjour Anne.
Vous nous parlez d'un anniversaire, celui de YouTube. 20 ans aujourd'hui, qui serait né, selon la légende, au cours d'un dîner entre amis et qui est devenu aujourd'hui une plateforme de diffusion vidéo absolument incontournable. Le site est même sur le point de dépasser les chaînes de télévision câblées en termes d'audience payante.
Oui, selon Google, le propriétaire de YouTube, les internautes du monde entier regardent quotidiennement plus d'un milliard d'heures de contenu vidéo issu de sa plateforme uniquement sur leur téléviseur connecté et en souscrivant un abonnement payant. YouTube, racheté par le géant d'Internet en 2006 pour 1,650 milliards de dollars, est donc une excellente affaire, menaçant les activités des mastodontes de la télévision traditionnelle, surtout aux États-Unis, comme les chaînes Disney, ABC ou encore CBS. Pourtant, le pari était risqué à l'époque de sa création, notamment en proposant aux internautes désargentés, sans studio et moyens de production, d'échanger en ligne leurs vidéos. Historiquement, le premier clip qui a été posté sur YouTube est celui d'une visite au zoo de San Diego aux États-Unis, qui a été publié en 2005 par l'un de ses trois fondateurs du site.
D'accord, nous voilà donc devant des éléphants. Ce qui est cool avec ces gars-là, c'est qu'ils ont vraiment, vraiment des trompes très longues. Et c'est cool. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire.
Effectivement, il n'y a quand même pas de quoi prétendre à l'Oscar de la meilleure vidéo du monde, mais ça a quand même lancé le phénomène YouTube.
Oui, et en deux décennies, le site est devenu un espace unique pour les créateurs de contenu du monde entier et un véritable paradis pour les influenceurs et les agences de publicité. Fiction, documentaire, musique, les contenus proposés sur la plateforme sont extrêmement variés. Un support numérique de masse sur lequel la question de la modération des contenus reste un problème, avec des vidéos qui sont contrôlées a posteriori et bien trop souvent après leur diffusion. Et parmi les clips les plus vus de tous les temps, nous trouvons la comptine pour enfants Baby Shark sur la chaîne des Pinkfong Kids Song, comptabilisant aujourd'hui plus de 15 milliards de vues. Et c'est à ce jour très largement en tête du classement des clips les plus consultés de l'histoire des réseaux de diffusion vidéo.
La concurrence est rude dans ce secteur du streaming en ligne, et notamment Dominique avec l'arrivée de TikTok en 2016 qui a poussé YouTube à innover encore et encore.
Oui, la plateforme de Google lance alors à l'époque les Shorts, un format de vidéo courte inspiré de TikTok qui a rencontré un succès immédiat. Parallèlement, YouTube investit dans le streaming en direct pour concurrencer les réseaux des gamers Twitch et les chaînes télé sur le web. YouTube prévoit en 2025 de recourir aux technologies de l'intelligence artificielle pour personnaliser ses recommandations et détecter les contenus inappropriés. Mais malgré la concurrence, YouTube reste archi-dominant donc dans la diffusion de vidéos en ligne avec son audience intergénérationnelle, une plateforme que fréquentent autant les baby sharks du web que les vieux requins de l'internet.
On va pas la réécouter, mais enfin bon, c'est vrai que ça fait partie des énormes succès de YouTube. Merci Dominique Dezonnet. Nous sommes le 14 février, ça ne vous aura peut-être pas échappé, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Et pour l'occasion, la romancière Dominique Marny nous parle d'amour, de son livre dont le titre affiche clairement « Je t'aime ». Il rassemble des illustrations, tableaux, dessins, photos et des textes écrits par de grands auteurs allant de Victor Hugo à Françoise Sagan. Entretien au micro de Catherine Fruchon-Toussaint.
Bonjour Dominique Marny.
Bonjour.
Comment est née l'idée de ce livre d'art, cette déclaration d'amour ? J'avais envie de faire une sorte de livre-exposition qui montrerait les différentes phases du sentiment amoureux. C'est une promenade littéraire, c'est une promenade muséale, c'est relier la littérature et la peinture ou la sculpture ou la photographie et montrer combien le sentiment amoureux a inspiré des artistes à toutes les époques.
Une envie qui vient aussi de l'époque où on ne parle pas assez d'amour, peut-être, selon vous ?
Je pense qu'on parle d'amour à notre époque, on en parle différemment. C'était ça que je voulais montrer aussi, c'est que le sentiment, si au fond, il est ressenti de la même manière, enfin je pense que au fond, on aime avec autant de profondeur ou autant de légèreté, peu importe, mais il est vécu autrement. Il est vécu autrement, on ne s'écrit pas de la même manière, on n'envoie plus de lettres, on s'occupe d'Internet, on envoie des mails. Enfin, il y a des tas de choses qui ont changé dans la forme. On se rencontre sur des plateformes de rencontres, pas simplement au hasard d'un bal comme autrefois ou de choses comme ça. Donc voilà, c'est la forme qui a changé. Mais le fond, je pense qu'il reste le même.
Il faut dire aussi que ici, c'est l'amour et ses représentations occidentale.
Oui.
Ça, c'est important de le rappeler parce que, en effet, on n'aime sans doute pas de la même façon selon les continents et vous avez pu en faire l'expérience, vous, Dominique Marny, j'imagine, en voyageant et en Asie, par exemple.
Voilà, c'est très, très différent. C'est pour ça que j'ai vraiment scindé l'amour en Occident de l'amour en Orient. Je n'ai pas les connaissances suffisantes pour parler de l'amour en Orient et c'est un sujet passionnant, mais c'est vrai que ça soit en Inde, en Chine, au Japon, les coutumes sont très différentes, on ne se déclare pas du tout de la même manière, il y a beaucoup de codes, et donc c'est très 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 différent. Par exemple, vous voyez, en Inde, on ne s'embrasse pas. Le Japon s'est encore vécu différemment. Et pendant très longtemps, on ne se montrait pas de façon extérieure quand on était en couple. Tout ça est très récent. Et c'est vrai qu'avec Internet, avec les réseaux sociaux, les choses ont changé en Orient. Et ce sont, je dis entre parenthèses, attention, occidentalisées, mais vraiment très entre parenthèses, je vous dis ça. Mais oui, parce que les gens sont beaucoup plus au courant de ce qui se passe ailleurs. Mais c'est vrai que c'est un sujet très, très différent et qui pourrait faire un livre magnifique. Mais je pense qu'il faut que ça soit vraiment un expert ou une experte sur ce sujet.
Qu'est-ce que vous allez faire en ce 14 février ? Célébrer la Saint-Valentin ?
Oui, certainement, bien sûr. Peut-être en voyant un film, qui sera peut-être pas forcément un film d'amour, mais peut-être en allant dîner quelque part, peut-être que... Voilà.
Oui, c'est une bonne journée aussi, finalement, pour se dire je t'aime.
C'est une très belle journée pour se dire je t'aime, puis c'est une journée où on peut se dire qu'aussi on ne peut rien faire que de penser aux sentiments amoureux.
Comme tous les jours de l'année, à vrai
dire. Voilà.
Merci beaucoup, Dominique Marny.
Merci.
Je rappelle le titre de ce magnifique beau livre qui paraît dans cette couverture rouge carmin avec cette rose tout en or. Un livre qui s'intitule « Je t'aime » et qui paraît aux éditions des Saint-Père.
L'amour, l'amour, l'amour.
Entretien au micro de Catherine Fruchon-Toussaint à écouter en version longue tout à l'heure dans l'émission Littérature sans frontières à partir de 13h30, temps universel. Avant cela, midi et demi, temps universel, l'actualité africaine. Avec vous, Nicolas Sûr, bonjour.
Bonjour, Anne Kantner.
Et vous nous parlerez tout à l'heure.
Dans l'Est de la République démocratique du Congo, le M23, appuyé par le Rwanda, a continué à avancer plus au sud. Pendant ce temps, la mission des émissaires des églises catholiques et protestantes poursuit ses consultations. Elle a rencontré hier à Kigali le président rwandais Paul Kagame. Et puis l'imam Diko rentrera-t-il à Bamako ? L'ancien président du Haut Conseil islamique du Mali, devenu l'un des principaux opposants des militaires au pouvoir, est en exil depuis plus d'un an. Mais ses soutiens annoncent son retour d'Algérie cet après-midi.
À tout à l'heure, Nicolas Sûr. Pour l'heure, on va écouter un peu de musique.
Au début, tout est beau, tout est parfait. Puis tout est flou, tout est faux, tout est à refaire. J'ai perdu trop de temps, trop de papel pour ne gagner que des vues quand je t'appelle. Quand je
donne ces sincères, Soprano et PLK avec ce titre à écouter en ce moment dans la playlist RFI Faux Paradis.
Que ça sème, hey, trop naïf pour le remarquer. Je vois le bien partout. Je t'avoue des fois que je suis largué. Ouais, faut que je sois dur comme Mobutu. Hey, à chaque fois que j'ai morflé, c'était à cause de tes mots doux. À toutes tes caresses, au sens du poil, tes promesses, à tes techniques vaudou. Hey, t'as fini par m'envoûter. par m'ensorcelé. J'avais ton nom, ton visage dans mon cervelet. Tu savais comment contrôler, manipuler mon petit cœur qui ne savait que pardonner. Beaucoup trop vrai pour ne pas être touché par ces relations au visage retouché. Ouais, je me suis reconstruit, après des années j'ai compris. Je me suis trompé de paradis.
Je me suis trompé de paradis.
Je ne savais plus comment faire, comment sortir de cet enfer. Ouais, je me suis trompé de paradis.
Je me suis trompé de paradis.
La tête et le cœur en guerre, et ma dignité mise sous terre. Je veux partir, Manela. S.O.S. 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 Partir sur la base.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Pour le 14 février, fête de la Saint-Valentin et des amoureux, je vous propose une émission spéciale autour d'un beau livre qui met en lumière les artistes, peintres et écrivains qui ont été inspirés par l'amour, ses joies et ses malheurs. Un ouvrage intitulé tout simplement « Je t'aime ».
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Tout à l'heure, à partir de 13h30 TU.
RFI.